France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Le président chinois entame aujourd'hui un voyage en Europe. Première étape, l'Italie. Il y aura ensuite Monaco, puis la France à partir de dimanche. Xi Jinping vient promouvoir ses nouvelles routes de la soie. Un gigantesque projet qui inquiète l'Europe, mais pas tout le monde. En Europe, il y a de la division dans l'air. Bonjour Jean-Paul Chang.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste de la Chine. Les nouvelles routes de la soie, qu'est-ce que c'est exactement ?
Eh bien, dans l'esprit des Chinois, c'est le prolongement d'une politique, d'une diplomatie à l'endroit des pays avoisinants. C'est le prolongement. Et pour eux, maintenant, dans leur esprit, c'est une contribution à la globalisation, à la mondialisation, mais par voie terrestre. C'est-à-dire par rapport à la mondialisation maritime, ils pensent réunir maintenant tout le long du continent Europe, Chine et par le Moyen-Orient aussi, relier finalement les différents pays par voie terrestre, donc chemin de fer, route, etc.
Tout ça pour exporter davantage les produits chinois. C'est ça le but.
En principe, c'est dans les deux sens. Hein, c'est dans les deux sens. Encore une fois, les Chinois présentent ça comme une contribution pour sauver la mondialisation, qui est un peu en difficulté. Et ça correspond aussi à des intérêts géopolitiques, bien sûr, chinois.
Et un pays lui tend les bras, hein, c'est l'Italie. Hein, c'est pour cela d'ailleurs que Xi Jinping commence ce voyage par l'Italie. Ce soir, il va y avoir un accord ?
Je pense que oui, ils sont en train d'envisager un accord effectivement cadre. L'Italie est très intéressée par des investissements chinois, notamment dans le port de Trieste, qui pourrait retrouver un peu d'éclat que cette ville a connu avant dans l'histoire, parce que les Chinois veulent faire éventuellement de Trieste un point d'arrivée, hein, et éventuellement une zone industrielle de transformation pour que certains produits chinois, enfin des pièces détachées, des choses puissent être remonté et devenir ce qu'on appelle des produits made in Italy. Donc ça les intéresse beaucoup. Et du côté italien, ils espèrent rattraper le retard qu'ils ont sur l'Allemagne, l'Angleterre et la France en matière d'exportation des produits vis-à-vis de la Chine.
Donc, l'Italie est très en retard, vous nous dites
arrive en quatrième place, disons.
Ah, c'est pas mal quand même.
13 milliards par an contre 20 milliards pour la France, 28 milliards pour l'Angleterre, et par contre, c'est 94 milliards pour l'Allemagne.
Et ce serait le premier grand pays à signer un tel accord avec la Chine ?
En tout cas, ce serait le premier pays du groupe du G7 à se prononcer aussi fermement et ouvertement et de manière, disons, favorable au projet de la route de la soie. Mais d'un autre côté, vous avez presque une centaine de pays qui ont déjà exprimé leur intérêt et qui ont participé déjà à des sommets tenus à Pékin. Il y en aura un autre cette année à Pékin pour en parler.
Mais quand la Chine dépense des milliards comme ça pour construire ce que vous nous dites, des chemins de fer, des routes, des infrastructures, rénover des ports, j'imagine qu'elle demande des contreparties, non ?
Bah, écoutez, je pense que il n'y a pas d'exclusif dans cette histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont constitué même des institutions internationales. Hein, donc, ils ont créé une banque dans les investissements, par exemple, pour le sud-est asiatique. En principe, c'est ouvert à tout le monde. Donc, tout le monde peut y participer. Dans les faits, il est vrai que la Chine, aujourd'hui, est plus excédentaire en capitaux à exporter que d'autres pays, comme l'Italie ou la France. Hein, donc, voilà. Donc, en principe, il n'y a pas de fermeture. Que les Chinois recherchent là-dedans éventuellement un marché, un débouché pour leurs entreprises ou leurs groupes, ça paraît un peu naturel. C'est arrivé à d'autres puissances auparavant, hein, lorsqu'on avait aussi des capitaux à exporter, on veut faire travailler ces entreprises.
Je pensais à un autre exemple quand je parlais des contreparties. J'ai lu que le Sri Lanka, qui a accepté d'importants prêts de la Chine, s'est retrouvé en défaut de paiement et il a dû céder à la Chine la gestion de ses principaux ports pour 99 ans. Ça, c'est quelque chose que vise la Chine aussi. Elle a dans un coin de la tête le président Xi Jinping de récupérer si justement des pays n'arrivent plus à rembourser les prêts. Comme ça, ils peuvent s'accaparer plein d'infrastructures.
Alors, il y a une critique effectivement assez répandue, disant qu'effectivement les interventions chinoises finalement provoquent des crises de la dette. Quand on regarde de près, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, en fait, vous avez effectivement des pays qui ont bénéficié d'investissements chinois, mais qui, par ailleurs, hein, sentant venir le développement, se sont endettés de manière...
Démesurée.
Moi, je connais d'autres exemples, si vous voulez. Donc, ce serait totalement... enfin, ce ne serait pas totalement exact que d'incriminer la Chine uniquement. En ce qui concerne donc le Sri Lanka, il y a eu un changement politique aussi au pays, enfin dans le pays. Et il est vrai que le problème d'investissement chinois a souvent fait l'enjeu finalement de débats politiques internes. Et donc on peut exagérer le tableau dans un sens ou dans l'autre. Quant à savoir les concessions portuaires, c'est quand même une pratique internationale. La France, on a des groupes français qui possèdent des concessions très long terme en Afrique, de tous les ports. Les Chinois ont pris effectivement en Grèce, au moment de la crise, quand il y a eu un besoin de privatiser des choses, ils ont pris une concession de 40 ans sur le port de Pirée, par exemple. Bon,
oui, parce que là, on a parlé d'Italie, mais en fait, le tout premier pays en Europe à avoir ouvert ses portes, c'est la Grèce.
Dire que les Chinois prêtent pour pouvoir réaliser leur gage, à mon avis, c'est un peu exagéré, parce que c'est pas comme ça que marche le monde. Hein. Voilà.
Et la position de la France vis-à-vis de ces routes de la soie?
Alors, c'est très ambigu. On a, disons, nous avons regardé tout ça avec beaucoup d'intérêt, parce que la France se rend bien compte qu'il vaut mieux en être que ne pas en être du tout. Les entreprises françaises sont capables de participer à ces projets d'infrastructure. On a les grands groupes qui peuvent intervenir dedans. Il est vrai que au niveau européen, je veux dire, c'est très difficile. Alors, à l'approche des élections, effectivement, on a l'impression qu'il y a une tentation pour susciter de l'intérêt pour l'unité politique de l'Europe. On cherche des ennemis ou des menaces extérieures pour unifier un peu les choses. Donc, on exagère peut-être un peu le risque chinois. Du coup, la France, qui est intéressée par un récit européen, je crois que le président l'a dit il n'y a pas longtemps, rien de mieux pour construire un récit national que d'avoir des adversaires ou des rivaux éventuellement à l'extérieur. Donc on a une attitude très ambiguë, parce qu'on a une histoire bilatérale qui est plutôt en forme, c'est-à-dire que la France est un fournisseur traditionnel de la Chine, et aujourd'hui en plus ça représente un potentiel gigantesque.
Oui, on ne peut pas se priver de la Chine, c'est un partenaire trop important.
Voilà, c'est le débouché pour par exemple pour un débouché mais qui existant et potentiellement encore plus important pour toute notre agriculture et notre industrie agroalimentaire. Donc on ne peut pas se passer de la Chine, c'est clair. Et puis on coopère beaucoup dans beaucoup de domaines, nucléaire, financier, etc. Donc, mais de l'autre côté, la France, pour assurer un peu son rôle de leader européen, est obligée d'aller dans le sens du vent. Donc s'il y a une sorte de méfiance, la France va un peu soigner cette chose-là aussi. Donc, et puis après tout, l'idée de dire que l'Europe a besoin d'être unie parce qu'il y a des menaces à l'extérieur. Finalement, c'est un langage un peu circonstanciel, à mon avis, à l'approche des élections européennes.
Et au niveau européen, il y a déjà un mécanisme qui a été adopté pour surveiller ce genre d'investissement.
Alors, il y a une déclaration, la position officielle de l'Europe, c'est une déclaration de 2016. Donc, on parle d'un partenariat stratégique avec la Chine et on a des ambitions pour 2020 en termes d'échanges. On négocie aussi un accord sur les investissements, donc réciproques. Et en principe, il y aura un sommet très important sino-européen en avril pour finaliser tout ça. Mais récemment, la Commission a sorti un document de 10 points où la Chine a été traitée, à la grande surprise des Chinois d'ailleurs, de rival systémique. Hein. Donc je vous dis, moi je pense que c'est un peu circonstanciel, parce qu'on approche des élections, et si on a comme ça des rivaux systémiques, peut-être ça donnera, on espère en tout cas, que ça donnera aux Européens
Un peu plus d'unité.
Oui, enfin en tout cas d'éprouver la nécessité d'avoir une existence politique forte. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup Jean-Paul Chang de vos explications. Vous êtes économiste et spécialiste de la Chine, comme nous l'avons entendu. Il est 6h29.